grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mawni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. La non-violence est infiniment supérieure à la violence. Le pardon est plus viril que le châtiment. Le pardon est la parure du soldat. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission. Cette citation de Gandhi nous plonge dans le vaste monde du maintien de la paix assigné aux différentes missions des Nations Unies dans le monde. Pour le Kamalien, la mission s'appellera MINUSMA et c'est dans ce cadre que nous recevons son commandant en chef, notre invité spécial pour cette émission du même qualificatif, Albert Condors. Bonsoir, Monsieur Condors.
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Condors répondra, comme c'est la tradition dans nos formats spéciaux, aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, les questions porteront exclusivement sur le mandat de la MINUSMA. Moussoukoura Konaté, comme d'habitude, est à mes côtés pour animer ce grand dialogue. Moussoukoura, bonsoir.
Bonsoir Famoussa.
La coordination technique est assurée aujourd'hui par Petit Ndiara et je suis Famoussa Sidibé. Encore une fois, bienvenue à ce grand dialogue.
Studio Tamani.
Pour accompagner les efforts de paix et de stabilité après la crise politico-sécuritaire qu'a connue le pays, les Nations Unies décident d'envoyer au Mali une mission, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Elle sera activée le 1er juillet 2014. Le Mali demande de l'aide. L'aide est accordée au nom des populations. Et depuis, la cote de sympathie de la mission joue au yo-yo. Toutes les interrogations résident à ce jour dans le mandat de la MINUSMA. Pour en avoir le cœur net, suivez tout simplement ces 45 minutes d'échange. Ceci étant, M. Condors, nous sommes un organe de paix et de dialogue. En quoi sommes-nous importants à vos yeux, sachant que le studio Tamani a vu jour au Mali en pleine crise et nous aurons également un an au mois d'août prochain?
Oui, merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité pour ce grand dialogue. Je suis vraiment honoré. Et je crois que ce que vous faites, c'est extrêmement important. Dans beaucoup de pays des crises où j'ai travaillé, et je crois surtout à Mali, ce qui est le grand pays de débat, de communication, c'est important de parler avec les citoyens de tous les côtés de Mali, sans exclusion, sans discrimination, sur ce que nous faisons pour avoir et montrer notre transparence, mais aussi pour répondre à des questions. Je crois que c'est extrêmement important. Le manque de transparence et beaucoup de rumeurs, ça, ce sont les problèmes vraiment dans une situation dans laquelle il faut construire la paix. Les gens ont encore beaucoup de méfiance entre eux. Et c'est oser la paix, c'est pas facile. Alors le débat, le dialogue, le radio, c'est, je crois, extrêmement important pour avancer la paix.
Comme à l'accoutumée, nous entamons le tour du Mali avec Moussoukoura Konaté et nous commençons par Bamako, Moussoukoura.
Merci Famoussa. Bonsoir Monsieur Condors.
Bonsoir Madame.
Monsieur le représentant spécial, la première question de ce débat vient d'Alexis Kalambiri, directeur de publication du journal Les Échos. Monsieur Kalambiri vous questionne sur l'objectif du mandat fixé à l'AMINUSMA en matière de sécurité au Mali. Je vous invite à écouter la question de Monsieur Kalambiri.
Alexis Kalambiri, directeur de publication du quotidien Les Échos. Monsieur le représentant, est-ce que votre mandat vous permet de tirer à côté des militaires maliens? Sinon, qu'est-ce que votre mandat vous permet de faire et qu'est-ce qu'il ne vous permet pas de faire et qu'est-ce que le Mali peut faire pour que votre mandat change?
Premièrement, le mandat sur le niveau de sécurité est donné par les membres du Conseil de sécurité. Ça veut dire les grands États du monde qui sont les membres permanents, comme la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, et beaucoup des autres pays, y inclut des pays africains. Et ils ont demandé comment on peut aider le Mali après la crise que vous avez vécue pendant la dernière année. Ils ont montré leur solidarité pour monter une opération de paix. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour la sécurité ? Pour la sécurité, ça veut dire que nous avons reçu un mandat qui est assez précis. On ne peut pas ici substituer pour l'État. Le Mali est souverain. Nous ne pouvons pas faire la guerre. Ce n'est pas notre mandat. Nous sommes premièrement là pour soutenir les autorités de ce pays, pour assurer que le processus de paix va avancer. Et deuxième, pour la protection des civils. Alors ça, ce sont les deux éléments. Est-ce que nous pouvons tirer avec les soldats maliens? Laisse-moi répondre le plus spécifique possible. Le premier, c'est on peut tirer surtout au moment, et ce sont des règles d'engagement de notre mission, à propos d'être attaqué. C'est le premier point. La deuxième, on travaille déjà beaucoup avec les forces armées maliennes. Si vous voyez, depuis que je suis ici, et la première étape, c'était d'assurer que nous avons les troupes. Ça, ce n'est pas tellement facile et je crois que je peux probablement l'expliquer dans 10 secondes. S'il y a une opération de paix décidée pour des raisons de solidarité avec les Maliens, ça ne veut pas dire qu'on a automatiquement ces troupes. Ils doivent venir de tous les pays du monde et ici, ils viennent par exemple de Chine, de beaucoup de pays africains, mais aussi d'Amérique latine. Il y a une grande solidarité, mais ça prend de temps pour se déployer. Maintenant, nous sommes à peu près 75% de nos troupes. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup plus qu'il y a quelques semaines. Alors, notre mandat de sécurité est premièrement protection des civils, soutenir l'État sans substituer pour l'État, assurer que nous faisons ça dans les régions où nous sommes déployés, et ce n'est pas partout dans le pays. Vous avez un très grand pays qui est très difficile à sécuriser, pas seulement pour les Maliens, mais pour, je crois, c'est un défi pour tout le monde. C'est un pays dans lequel le Nord, je crois, il y a 10% de la population qui vit là-bas et qui doit être sécurisé pas seulement par des éléments militaires, mais aussi par des moyens politiques et humanitaires. Ce sont ces trois approches ensemble qui caractérisent en fait notre mandat, les valeurs des Nations Unies. C'est sécuriser les populations. C'est assurer qu'il y a des solutions politiques, parce qu'au fin, il n'y a qu'une solution politique, mais pas de naïveté. On a besoin d'un processus de paix. Et c'est important de dire, une opération de maintien de paix, ça veut dire qu'il faut maintenir la paix. Dans votre pays, c'est un peu complexe, parce qu'il y a un accord préliminaire. Moi, j'avais l'honneur de négocier avec le CEDEAO et avec l'Union africaine, et avec les différents partis, d'avoir cet accord préliminaire. Mais il n'y a pas encore une paix finale. Ça pose déjà un problème pour une opération de paix. Mais je crois, en général, nous avons beaucoup de choses pour assurer la sécurité des citoyens dans ce pays pendant les derniers 11 mois.
Alors, nous sommes à vous, M. Koula.
Et à présent, Famoussa, nous sommes à Tombouctou, une région touchée par la crise du nord du Mali.
Oui.
Le directeur d'une de nos trois radios partenaires dans la région de Tombouctou veut en savoir plus sur les limites du mandat de l'aménagement au Mali. Monsieur le représentant spécial, je vous propose d'écouter sa question.
Monsieur Condors, bonsoir. Je m'appelle Askia Maman, je suis le directeur de Radio Alpha au nom des populations de Tombouctou qui sont très inquiètes eu égard aux événements de Kidal. Une grosse controverse cependant entoure la passivité avec laquelle les troupes de l'aménagement ont observé le déroulement des opérations à Kidal. Monsieur Condors, quelles sont les limites du mandat de l'aménagement en matière de sécurisation au Mali?
À vous.
Voilà la question un peu pourquoi on demande les limites, mais pas les possibilités. Je suis heureux de parler sur les limites. Mais on est en train d'aider votre pays avec plus de 8000 troupes maintenant. Et nous avons, comme à Timbuktu, je crois que c'est très important, monsieur, je crois qu'il travaille à Timbuktu. Depuis que je suis ici, on a essayé avec les troupes qui sont là de faire beaucoup de patrouilles, pas seulement à Timbuktu, mais aussi dans la région. De plus de troupes nous avons, de plus des hélicoptères nous avons, de plus nous pouvons faire. Mais j'ai vu que dans la région de Timbuktu, par exemple, il y a un retour d'un certain degré d'apaisement qui n'existait pas avant. Quand je suis venu là la première fois, il n'y avait personne vraiment qui était à l'aise. Maintenant, je crois, construire la paix, ça ne se fait pas dans 2 jours ou 2 semaines. Maintenant, il faut assurer que nos patrouilles, avec les forces armées maliennes, avec les polices maliennes, mais aussi avec les humanitaires, avec les gens qui donnent le retour de l'État, qu'ils travaillent ensemble pour n'aller pas seulement à Timbuktu-ville, mais aussi pour assurer que dans les autres localités, il n'y a plus de présence de l'État malien. Ce n'est pas nous nécessairement, parce que nous soutenons l'État malien. Je crois beaucoup les soucis des événements de Kidal. C'est clair que le jeu a un peu changé depuis les événements de 17 et de 21, et je crois, premièrement, il faut le condamner. Il faut le condamner parce que vous avez un pays où il faut respecter la règle et la souveraineté de l'État. Et c'est clair que ce qui était fait par le groupe du Nord, c'est en désaccord avec les accords de Ouagadougou.
Qu'est-ce qui s'est réellement passé le 17 mai à Kidal?
Le 17 mai, il y était, comme vous savez, le visite du Premier ministre. qui, au même moment, a mené à un certain moment par des groupes armés pour commettre des atrocités. Et je veux dire aujourd'hui, de nouveau, comment nous condamnons ce qui s'était fait au gouvernorat, les gens qui ont été tués là-bas. C'est pour cela aussi que les Nations Unies, c'est un autre élément de notre mandat, a directement envoyé une équipe de droits de l'homme pour assurer que la preuve pour cette atrocité pendant le 17 mai ne seront pas détruites. Alors il faut le condamner, c'est très grave, c'était une visite qui n'était pas un succès, tout le monde le sait, et bon, qui a mené aussi après à les événements de 21. Et je crois que nous sommes tous choqués par ce qui s'est passé, et nous devons aller ensemble, je crois, main à main, la communauté internationale, le gouvernement malien, aux côtés de la paix. Que ça ne se répète pas.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez à 75% de votre... Au niveau satisfaction, vous êtes à 75% aujourd'hui. Est-ce que c'est ce manque de logistique qui vous a empêché d'éviter ce qui est arrivé à Kidal?
Non, il ne faut pas... Là, c'est intéressant. Je ne crois pas que c'est seulement à nous d'éviter quelque chose. Il faut, comme j'ai dit, il faut parler du mandat, il faut parler de nos activités. Le fait que nous sommes 75% de nos capacités, ça veut dire des troupes. Moi, j'ai encore besoin de beaucoup d'hélicoptères et de transports.
Vous en êtes à combien aujourd'hui ?
On a 4 hélicoptères d'attaque qui, en fait, n'étaient pas encore tout là au moment que nous avons eu cette problématique à Kidal. Mais comme vous savez, c'était un peu plus complexe ce qui s'est passé à Kidal. C'est quelque chose qui a mené à une discussion interne entre les Maliens sur ce qui s'est passé, surtout le 21, qui a pris la décision, etc. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel j'ai pas le droit de me mêler là-dedans.
Monsieur Koura Konaté a une question.
Oui, monsieur Kondarza, à propos de Kidal. Après les derniers événements à Kidal, l'aménagement a beaucoup communiqué. Est-ce que cette communication a changé la vision des Maliens sur l'aménagement? Parce qu'après Kidal, une partie de l'opinion malienne était en train de fustiger l'aménagement.
Oui, bon, je crois que je ne sais pas si c'est changé. Je ne sais pas aussi qui tout le monde nous a blâmés. Il y a beaucoup de citoyens que j'ai entendus qui nous ont téléphoné après tout ce que nous avons fait pour les blessés de Fama, par exemple. Que nous sommes même maintenant, nous avons les forces armées maliennes dans nos camps, qui sont protégées là-bas. On a fait beaucoup pour sauver beaucoup de vies. Et je crois ça, en tout cas ce que j'ai entendu, est beaucoup apprécié par les Maliens. Au même moment, oui, on communique beaucoup, mais je ne fais pas de propagande. J'explique ce que je fais. Nous sommes ici, et je crois que le président de la République a dit, avec vous, il ne faut pas se tromper d'ennemis, je crois le Premier ministre a dit. Et ça, c'est vrai. Il n'y a aucune question que le MINUSMA est avec vous. Et il y a des problèmes que nous avons vus, il faut les résoudre ensemble. On peut comparer ce qui s'est passé. Mais au fond, ils sont aussi des leçons à tirer. Il faut toujours travailler ensemble. Il faut assurer que l'option militaire n'est pas la seule option, mais il y a aussi la nécessité d'aller à la dialogue. Ce n'est pas facile. Il faut oser la paix. Mais je crois maintenant, c'est vraiment tourner la page et voir comment on peut s'affaire ensemble. Les Maliens, je crois, sont très fatigués de guerre, très fatigués des conflits militaires, très fatigués de blâmer l'un ou l'autre. Blâmer, ça ne va pas aller. Je crois que c'est important de voir comment aussi chez nous, dans le MINUSMA, nous avons eu beaucoup de blessés. Il ne faut pas oublier, ils sont des Africains qui sont venus dans votre pays, des policiers qui sont blessés plus d'une vingtaine. Qui prennent le risque aussi pour la sécurité des Maliens.
Merci beaucoup, M. Konders. Je vous propose d'observer quelques secondes de pause avant de poursuivre ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou 98 MHz. Issaber de Niafunké 96.3 MHz.
Le mandat de la MINUSMA, tout ce qu'il faut savoir de ses contours, nous tentons d'y répondre en 45 minutes dans notre grand dialogue d'aujourd'hui. Nos 24 radios partenaires vous permettent aujourd'hui, aux quatre coins du Mali, d'entendre les explications sur le mandat de la MINUSMA au Mali. Et je rappelle que ces explications sont données par le chef de la MINUSMA, M. Albert Condors, lui-même dans ce studio. Et à mes côtés, Moussoukoura Konaté, pour le tour d'horizon du pays. Nous poursuivons donc notre aventure dans le pays, Moussoukoura. Et nous devons faire escale dans la cité des Askia.
Oui, Famoussa, nous allons à Gao, une des régions au cœur du conflit armé qui justifie la présence de la MINUSMA au Mali. Monsieur Condors, le directeur de la radio Adar Koïma de Gao, s'interroge sur l'action de la MINUSMA dans l'aboutissement des négociations pour une paix durable au Mali.
Boubacar Touré, directeur de la radio Adar Koïma Gao. Ici, dans la région, nous pensons que le mandat des casques bleus est de négocier une paix durable au Mali. Mais malheureusement, nous ne voyons pas encore la paix venir, surtout avec ces derniers événements survenus au nord du pays.
Secondaire.
Oui, je voudrais vraiment remercier M. Touré pour sa question et pour aussi dire vraiment comment j'ai apprécié de travailler avec les citoyens de Gao, une ville qui a souffert beaucoup pendant la guerre, beaucoup de violations de droits de l'homme et de la femme. Une localité où beaucoup de citoyens ont pris leur propre responsabilité quand ils se sentaient, bon, en fait, sans aucune protection. Et je comprends très bien la question. Qu'est-ce que c'est la rôle des Nations Unies ? Je veux dire une chose avant. Ce n'est pas nous qui faisons la paix. Ce sont les Maliens. Ce sont les femmes et les hommes maliens qui doivent se parler. Nous pouvons être le pont. Nous pouvons créer la confiance. Nous pouvons aider que ces gens qui veulent prendre la lutte pour la paix en otage, on peut utiliser les moyens militaires, mais aussi, il faut toujours dire, la paix, c'est entre les Maliens. Et je crois que c'est le plus important maintenant, et c'est pour cela que nous sommes ici. Parce que vous avez une tradition aussi de culture de faire la paix, de dialogue. C'est parce que les conclusions du paix depuis les dernières années n'étaient pas toutes soutenables. Toujours après une ou deux années, il y a une nouvelle guerre. Alors la communauté internationale, les Nations Unies, peut, sur le niveau local, mais aussi sur le niveau national, aider de créer la confiance entre la partie. Ça ne veut pas dire que nous avons une sympathie pour une partie ou pour l'autre. Quand on parle avec quelqu'un, ça ne veut pas dire « Ah, ce sont nos amis ». Ça, j'entends de temps en temps, on parle avec ce ministre, ou on parle avec le MNLA, ou on parle avec un autre groupe. « Ah, mais ce sont leurs amis ». Non, ça n'a rien à faire. Nous sommes ici pour la souveraineté nationale, pour l'intégration territoriale. C'est une des valeurs des Nations Unies. Mais dans votre grand pays, il faut faire la paix. Nous sommes là, ce qu'on appelle pour les bon offices. Par exemple, à Gao, je vous donne des exemples. Moi, j'ai moi-même présidé sur des réunions entre les Peuls et les Touaregs. Vous savez, ça coûtait, je ne sais pas exactement, mais une trentaine de morts il y a quelques mois. Il y était des hommes et des femmes avec énormément de discipline et de courage qui ont dit, même après ce qui s'est passé à Kidal, de s'asseoir ensemble. C'est ça notre travail, de prévention des conflits locaux. Vous savez, maintenant, c'est complexe, avec toute cette région entre Gao, Ansongo et Menaka. Demain, nous avons un team humanitaire qui va là-bas, de nouveau, pour parler avec les différents côtés, pour prévenir qu'il n'y a plus de violence. Je crois que c'est ça notre rôle, d'être le pont, d'encourager la paix et d'assurer que sur le niveau national et international, ce paix, cette fois-ci, est durable. Et vous avez une chance historique, cette fois-ci, parce que nous ne sommes pas ici pour imposer quelque chose. Je veux vous assurer de tout ça. Je ne représente pas un pays. Je ne représente pas un continent. On représente ici la communauté internationale, le monde, en fait, avec une présence énorme, surtout des collègues de votre propre continent qui sont en solidarité avec le Malien. Ça ne veut pas dire que c'est seulement la solidarité. Ils ont aussi leur propre intérêt, mais ce n'est pas l'intérêt de partager le pays. Qui veut ça dans les Nations Unies ? Ils sont basés sur la souveraineté nationale. Mais qui veulent assurer que le Mali reste intégré, national, fier de lui-même, qui fait paix entre les différentes populations et qui, pour cette raison, ne sont pas un problème aussi pour la région, et pour la paix et sécurité internationale. Je crois que ça, c'est notre rôle.
Alors, M. Condors, les partis s'accrochent à l'accord de Ouagadougou aujourd'hui. Chacun dit de son côté que l'autre ne respecte pas l'accord de Ouagadougou. Où est-ce que ça bloque dans cet accord de Ouagadougou?
Vous savez, je crois... Moi, j'ai travaillé avec les différents partis, côtés, les derniers 8 ou 9 mois. Et il était un ralentissement, c'est clair. Ce n'était pas un succès. Il n'y a pas un accord de paix. Premièrement, parce que je crois, au début, c'était aussi probablement trop tôt. Les partis des différents côtés n'étaient pas vraiment
préparés.
Deuxième, il y a été énormément de méfiance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de méfiance? On va parler procédure. Où est-ce qu'on va discuter? Qu'est-ce que sera l'agenda? Est-ce que ce groupe peut venir si l'autre ne vient pas? Alors, au fin, on peut aller et tourner à rond. Et je crois, même avec toutes les atrocités et tous ces événements qui je trouve personnellement extrêmement graves, que ça pourrait aussi mener à une conclusion qu'il n'y a pas une option de nouveau tourner en rond et de se parler. Et de ne pas se parler sur toutes les conditions, mais vraiment de mettre sur la table ce qu'on veut avec la Mali. L'accord de Ouagadougou, il y a deux principes intégrales. Ça veut dire la souveraineté nationale et la laïcité du pays. Et puis, il y a des discussions entre les partis. C'est aux Maliens de faire la paix. Nous pouvons aider, stimuler et au fin aussi garantir, si vous voulez, ce projet de paix.
Alors, juste avant de passer la parole à M. Koura, M. Condors, aujourd'hui, vous avez une part importante, un rôle important à jouer dans le cantonnement et le désarmement.
Oui.
Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours d'actualité de parler de désarmement et de cantonnement?
Mais je crois que c'est la priorité. Le cantonnement, vous savez, il y a une résolution de Conseil de sécurité. Ils disent que les groupes armés doivent déposer les armes.
Pourquoi ça a tardé?
Ça a tardé parce qu'il n'y était pas la discussion, même sur le site. C'est au fin les Nations Unies qui ont négocié, moi je l'ai fait avec notre commandant de force, le général Kazoura, en avril. Il était un mode opératoire qui était soutenu par tous les partis, avec les détails, reconnaissance, qui donne les armes, qu'est-ce que c'est le futur de tout ça? Mais c'est très clair, si on ne se parle pas, comment il faut s'associer sur, faire un accord sur où sont les sites, comment à protéger, etc. Il était ce mode opératoire et c'est très dommage que c'est à ce moment-là où on était, le processus est allé dans une autre direction. Mais je crois qu'il faut directement le reprendre parce que si les Maliens veulent la paix, ça veut dire qu'il faut faire une différence entre ceux qui veulent faire une route politique, qui veulent se cantonner, qui ont un futur politique dans ce pays, et ceux qui ne le veulent pas. Je crois que le processus de cantonnement et au fin le processus de démobilisation et de réinsertion et de réintégration sera un futur pour tous les Maliens, mais il faut le discuter, il faut le financer, il faut le faire.
D'accord. Alors, Moussa Koura, a une question pour vous.
Oui, Monsieur Condors, vous disiez un moment que personne ne veut la partition du Mali. Mais je repose cette question. Est-ce qu'il y a sur la table une éventuelle idée de division du Mali comme ça a été le cas au Soudan? Et si je ne me trompe, au moment de la scission du Soudan, vous y étiez?
Non. J'étais à Soudan, oui. Mais pas pour faire ça. Oui. Et ça, c'était dans une situation totalement directe. Non, il n'y a aucun plan, aucun projet, aucune idée, aucun soutien dans la communauté internationale pour partager le pays. Je veux vous assurer de tout ça. J'étais juste avec le Conseil de sécurité et comme je vous ai dit, ce sont les pays de tous les continents. Ils sont pour la souveraineté nationale. Il n'y a aucune question.
Une médiation étrangère fait-elle partie de votre stratégie de négociation de la paix au Mali?
Excusez-moi, je n'ai pas tellement
une
compris.
Une négociation étrangère.
Oui.
Et je peux dire, que dites-vous du Maroc, de la Libye et surtout de l'Algérie où se discute présentement la question de la sécurité?
Non, maintenant, vous me demandez vraiment une question très difficile parce que ce sont tous les membres des Nations Unies. Alors, je ne peux pas dire à un est mieux que l'autre. Je peux dire deux choses, je crois. Premièrement, le paix, c'est que c'est fait par les Maliens. Deuxième, je crois le Mali a encore besoin de la communauté internationale pour aider ce processus. Troisième, je crois, toutes les initiatives régionales, y inclut ce qui se passe maintenant en Algérie ou dans les autres pays à venir, c'est important qu'il aide la sécurité régionale. On n'a pas besoin de multiplication des efforts, on a besoin de cohérence, et c'est exactement le rôle des Nations Unies pour assurer que ça ne va pas dans tous les sens. Mais je crois maintenant qu'il y a, avec le fait que le président de la République a nommé un haut représentant pour la paix, qu'il y a des initiatives dans la région qui, dans mon opinion, en tout cas, c'est ce que je vois, un peu de distance, mais je vois qu'ils veulent en tout cas aller pas dans la compétition, mais dans la cohérence et la coopération. Je crois que c'est une chose positive, mais c'est vrai, maintenant, il ne faut pas retarder. Ça veut dire, à un certain moment, on a besoin d'une date et d'un agenda et d'un gens qui se parlent.
Une pause à Bamako avant de continuer, Moussoukoura.
Et oui, la place des droits de l'homme dans le mandat de l'aménagement pour que justice soit faite, c'est la question de Gassou Drabo. Je vous signale que M. Drabo est un journaliste, un ancien ministre de la Communication. Il a aussi dirigé pendant des années le quotidien national Le Sol. Monsieur le représentant spécial, écoutons ensemble la question de notre confrère et ancien ministre.
Monsieur le représentant spécial, ma question a trait au traitement des droits de l'homme par la MINUSMA. Vous savez qu'au nord de notre pays, la période d'occupation s'est caractérisée par de graves violations des droits de l'homme sur des populations civiles. Il y a aujourd'hui une nécessité de rendre justice à ces populations. Mmh. Quelle est, à votre avis, la contribution que peut faire la MINUSMA pour que justice soit rendue aux victimes des exactions?
Merci, Monsieur le ministre, pour cette question, je crois, qui est absolument cruciale. Je crois que c'est un des clés de notre mandat. Nous avons une équipe, pas seulement de droits de l'homme, mais aussi pour l'état de droit et le retour de justice. Je crois que c'est extrêmement important maintenant que tous les gens qui étaient victimisés par les djihadistes ou par les extrémistes ou des autres, les gens qui sont responsables viennent avant un juge. Si on ne fait pas ça, la population a la risque de faire leur propre compte. Et c'est pour cela que nous aidons le ministre de Justice, Batailly, mais aussi le retour, par exemple, de tous les juges, les parquets, d'aller de nouveau au nord. Même quand nous parlons, il y a des problèmes dans les derniers jours dans quelques villes et villages, parce que les représentants d'État de la justice n'étaient pas là. On est en train maintenant d'assurer qu'ils reviennent. Deuxième, je crois que c'est important qu'il y a des commissions d'enquête, que la vérité est dite, que la population peut dire la vérité, peut en parler. Je crois là, c'est important que votre ministre de Réconciliation nationale est en train de nommer des personnalités pour la commission nationale de réconciliation. Troisième, je crois, c'est important. Et je l'ai vu, par exemple, si on parle de ce qui s'est passé à Kidal, où tous les Maliens sont, je crois, extrêmement impliqués dans leur cœur après tout ce qui s'est fait, qu'il y a une commission internationale d'enquête. Moi, j'ai déjà préparé des lettres pour tous les côtés. C'est même dans le cessez-le-feu avec les partis que c'est un élément clé. Il ne faut pas retarder ça. Il y a beaucoup de commissions d'enquête et on n'entend plus de ça. Je crois que c'est important de vraiment faire la signature et faire ces enquêtes.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec les perspectives de la MINUSMA au Mali.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
La MINUSMA, son mandat, ce qu'elle peut et ne peut pas faire au Mali, il nous reste 15 minutes pour encore comprendre la mission qui lui est assignée. Notre invité spécial n'est autre que Albert Condors, le chef de la MINUSMA, qui a bien voulu répondre à notre invitation et répondre également à vos questions, vous, auditeurs du studio Tamani. Moussoukoura Konaté est avec moi dans ce studio. Nous sommes deux à animer cette émission. Cette avant-dernière étape est consacrée au 1 an de la MINUSMA, anniversaire qui suppose bilan. Et pour cette première question, Monsieur Condors, je vous préviens tout de suite, Moussoukoura Konaté a un peu pimenté sa sauce.
Tout à fait, Famoussa. Monsieur Condors, voici une question assez polémique, mais elle représente tout de même le point de vue d'une partie de la population qui met en cause le mandat de la MINUSMA. La question est de notre confrère du journal le 22 septembre. Elle porte sur le bilan de l'aménagement. Écoutons sa question.
Shahana Takiyou, directeur de publication du journal 22 septembre. Monsieur Condors, l'amnistement a un an. Le bilan de votre organisation est vraiment négatif ici au Mali. Serval, on sait, a permis la poussée des djihadistes. L'amnistement, quel a été son rôle dans le cadre sécuritaire?
Merci beaucoup. Et je voudrais aussi vraiment remercier cette question. Et je crois que c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les Maliens doivent savoir pourquoi on est ici. Moi, je viens d'un pays, un petit pays en Europe, où il y était des troupes internationales à un certain moment aussi. Je crois que dans toutes les histoires de tous les pays, on a tout ça. Et on pense, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi ils sont chez nous? Est-ce qu'ils ont des intentions bien ou pas? Je comprends cette question. Je peux vous donner quelques exemples très spécifiques. Je crois que sans MINUSMA, c'était presque impossible d'avoir les élections que nous avons eues pendant les dernières années. L'année passée. Quand j'étais nommé représentant spécial par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, on m'a un peu averti, on dit, voilà, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir des élections démocratiques à Mali? Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un accord même préliminaire de paix? Nous étions, je crois, associés à ces deux éléments qui étaient cruciaux, qui étaient des conditions nécessaires pour le Mali d'avancer. Vous avez maintenant un président qui est élu avec, je crois, plus de 77% des votes. Ça veut dire un président légitime. La sécurisation, la logistique, la prévention de conflits autour des élections sur tous les territoires maliens, c'était pas seulement nous, c'était surtout les Maliens qui voulaient voter. Mais au fin, je crois, c'était quelque chose que je n'avais pas pensé que nous avons pu faire tellement vite et avec tellement d'efficacité. Je crois que c'était important, le retour de constitutionnalité. On l'a fait après, avec vous, pour la présidentielle, pour les parlementaires, extrêmement important, pour le retour de constitutionnalité. Il y était avec l'Union africaine et le CDAO et les partis maliens, en tout cas un accord préliminaire. On peut le critiquer ou pas, mais au fin, c'est la base maintenant des négociations de deux côtés. Les événements de Kidal, oui, bien sûr, ils sont très graves. On va écrire l'histoire sur ce qui s'est passé exactement. Ce n'est pas à moi de juger tout ça. Il y a des commissions maliennes, etc., etc. Mais c'est aussi très clair, je crois, qu'avec l'Union africaine, les Nations unies ont assuré directement qu'il était un cessez-le-feu. S'il n'était pas un cessez-le-feu, ça, c'était plein de risques pour Timbuktu et Gao. Alors, je crois qu'il y a vraiment aussi des éléments extrêmement positifs. Hein, je ne veux pas faire le propagande, mais si on voit le retour de l'État, des préfets, des juges, d'aide humanitaire, de beaucoup, des choses qui sont probablement pas tellement grandes, mais qui sont symboliques aujourd'hui, par exemple, aussi le retour à Gao, le grand festival de musique, de donner de nouveau de courage des Maliens dans leur propre futur et d'assurer que nous sommes avec eux. Je crois que ça, c'est le plus important. Alors, mon bilan est un peu plus positif, mais néanmoins, je respecte beaucoup la question et alors, j'essaie d'expliquer.
Alors, est-ce que vos relations avec le sommet de l'État se sont améliorées? Le chef de l'État, le Premier ministre, est-ce que vous vous entendez bien avec ces deux personnes?
Oui, et je crois aussi là, si vous me permettez de dire quelque chose, parce que ça, c'est aussi un peu ce que j'ai vu dans ce pays. C'est vraiment plein de rumeurs. Plein de rumeurs. Bien sûr, on a eu des discussions sur ces événements derniers. C'était dans toute amitié. On avait comparé les notes et on travaille étroitement ensemble. Alors, je crois qu'il y a aussi, dans une situation post-crise, beaucoup je ne sais pas qui, parce que je ne peux pas le juger, mais il y a beaucoup de rumeurs qui n'ont rien à faire avec la réalité. Il y a une bonne relation et c'est important de le faire. Nous sommes en alliance avec les Maliens, avec le gouvernement Mali, pour faire la paix.
Et pourquoi cette déclaration du Premier ministre à son arrivée, que la MINUSMA n'a pas aidé?
Non, le Premier ministre a dit qu'il avait une autre vision sur le rôle des Nations Unies pendant sa visite. On a discuté très bien là-dessus. On a décidé de comparer la note, mais c'était vraiment une discussion sur les faits. Et ça, c'est normal, c'est dans toutes les organisations internationales avec le gouvernement. Mais je ne l'ai pas senti comme quelque chose d'extrêmement négatif. Et je lui ai entendu très clairement aussi de dire, voilà, ne trompez-vous pas des ennemis. On est avec vous, main à la main, pour le Mali. Et ça, c'est le plus important.
La dernière étape de notre randonnée nous conduit dans la charmante ville de Djenné, Moussoukoura.
Monsieur le représentant spécial, le directeur de la radio Djamana de Djenné dans la région de Mopti s'interroge sur l'avenir de l'aménagement. La radio Djamana est l'une de nos trois radios partenaires dans la région de Mopti. Voici la question de Monsieur Lévi Dounion.
Bonjour, je suis Lévi Dounion, directeur de la radio Djamana de Djenné. Djenné, c'est à 140 km de Mopti. Monsieur Kondeus, le mandat de l'aménagement prend fin très bientôt. Est-ce que ce mandat sera renouvelé? Si oui, pour combien de temps encore? Merci.
Oui, premièrement, je dois m'excuser parce que je me sens extrêmement mauvais. Je n'étais pas encore à Djenné. J'ai la grande photo.
Une ville à visiter.
Oui, avec l'histoire, avec les mosques, etc. Je dois m'excuser vraiment. Le mandat de MINUSMA est toujours pour une année. C'est décidé par le Conseil de sécurité pour une année. Et puis, il y a une discussion. Est-ce qu'on va le continuer ou non? Cette discussion... sont à New York le 18 juin. Alors je vais voyager à New York, je crois aussi avec votre ministre des Affaires étrangères. Et on va discuter, est-ce qu'il faut continuer avec ce mandat? Ça dépend aussi bien sûr de volonté du gouvernement malien, de volonté des membres du Conseil de sécurité, parce que ça coûte énormément d'argent à beaucoup de pays. Alors ils doivent s'accorder là-dessus. Moi j'ai l'impression que, pour des raisons que vous connaissez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup des membres du Conseil de sécurité sont prêts à continuer le travail, bien sûr, à base de la volonté et de l'invitation du gouvernement malien.
Alors il y a une question en suspens, c'est la robustesse du mandat. Est-ce que le Mali pourra parvenir à obtenir cet accord au Conseil de sécurité?
Bon, ça c'est trop tôt à dire et ça, il faut aussi me dire qu'est-ce que c'est le robustness du mandat. On a un mandat assez fort, c'est sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ça veut dire que c'est assez proactif, on peut faire des choses. Je crois pas là il y a des problèmes, c'est vraiment qu'il faut comprendre très bien ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Nous ne sommes pas ici pour faire la guerre ou nous ne sommes pas ici pour... se substituer pour le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut proactivement utiliser la force au moment qu'il faut protéger la civile. Ce n'est pas un mandat doux. Et si on peut vraiment expliciter ce mandat avec plus d'activité au nord, ça n'a rien à faire avec le mandat, mais avec les troupes, les hélicoptères et tout ça. Et ça, c'est un problème, pas seulement ici, mais aussi à l'Afrique centrale, au Soudan, mais aussi, par exemple, au Mali. Parce que vous avez, je crois, au fin, c'est l'armée malienne qui doit se responsabiliser pour la sécurité malienne. Et nous sommes là maintenant pour soutenir cette armée.
Alors, je pense que M. Koura a une question pour vous.
Et M. Konderze, si le mandat est renouvelé, est-ce que vous allez continuer à diriger l'aménagement?
Oui, normalement, oui.
Est-ce que vous vous sentez bien au Mali?
Je me sens très bien. Je n'ai pas encore entendu qu'on ne me veut plus. Et moi, j'aime beaucoup de travailler ici. Vous savez, j'étais ici la première fois comme ministre de coopération de mon pays, les Pays-Bas, dans beaucoup d'années. Et quand le secrétaire général Ban Ki-moon m'a demandé d'aller de Côte d'Ivoire, où j'étais représentant spécial après la crise post-électorale là-bas, pour venir ici, moi, j'étais extrêmement heureux. Et je crois que vous avez un pays que... presque tout le monde que je connais aime la mentalité, le débat, l'histoire, la culture. Et c'est pour cela qu'on se sent bien. Et s'il y a des discussions, de mieux, il n'y a pas de problème. On travaille ensemble et s'il y a des discussions, on le fait.
Alors, je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous comprenez les critiques formulées à l'égard de la MINUSMA?
Oui, je comprends très bien parce qu'il y a toujours... après une crise comme ça, qu'on pense qu'on peut faire la paix dans 2 mois. Je ne connais aucun pays où on peut faire la paix en 2 mois. Oui, il faut regagner la souveraineté du pays. Et ça ne serait pas facile, mais on peut le faire avec tous les instruments nécessaires. Ce n'est pas seulement militaire, c'est civil, c'est politique, c'est l'ensemble. Et je crois, je ne veux pas demander pour se patienter, pas du tout. Tout le monde veut que ça va assez vite. Et vous voyez ce qui s'est passé maintenant aussi à Gao et Timbuktu. C'est vraiment différent que c'était avant. Et maintenant, il faut assurer aussi, c'est à Agolok et à Kidal. Et nous devons, ensemble, je crois, avec les Maliens, reformuler maintenant comment on va faire ça. Mais le paix, ça se concerne comportement. C'est créer la confiance. C'est négocier. et c'est aussi être pas naïve. Et avec ces quatre éléments, on peut avancer.
Alors, y a-t-il un résultat particulier dont vous êtes fier aujourd'hui d'avoir réalisé ?
Oui, je suis fier vraiment que nous avons pu contribuer à le fait qu'il y a un retour d'un président et d'un parlement ici, et une volonté aussi de beaucoup de Maliens de se parler. Ils comprennent aussi qu'il faut se parler, même si c'est difficile, même s'il faut l'oser, même s'il y a beaucoup de gens. On parle seulement avec son ennemi, c'est ça la difficulté. Et je suis fier que nous avons la possibilité, avec toute humilité, de encourager un peu ce processus.
Moussoukoura.
Oui, Monsieur Kondelz, vous parliez tout à l'heure de temps dans la gestion d'une crise pour le retour de la paix. Si le mandat de l'aménagement doit être renouvelé, et ça doit être renouvelé selon vous, pour combien de temps et avec quel objectif et quels moyens?
Bon, premièrement, c'est toujours dans la masse un peu une réponse formelle pour une année. Moi, je crois qu'il faut, si vous invitez une amie à dîner chez vous, et cet ami va partir après le premier plat. Vous pensez, voilà, c'est pourquoi ils sont venus, c'est ce qu'il était quelque chose pas bien. S'il reste jusqu'au matin 7 heures, vous pensez, pourquoi ils sont encore là? Alors c'est un peu avec les opérations de paix aussi. Ils ne doivent pas rester trop courts ni trop longs, et ça dépend de la situation dans le pays et la volonté aussi de ce pays d'avoir ces militaires sur leur territoire. Moi, je n'ose pas dire des mois ou des années, mais je crois qu'il faut prendre un peu de temps pour avancer ce grand projet de paix ici. Et je suis optimiste, je veux dire ça aussi à tous les Maliens, même après ce qui s'est passé. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de votre pays montrée dans le passé pour faire la paix.
Alors, si on vous demandait de résumer en une minute tout ce que vous avez à l'idée aujourd'hui comme perspective pour l'aménagement et pour le retour de la paix au Mali, quelle serait cette réponse?
La réponse sera, nous ne sommes pas le plus important. Le MINUSMA est là pour la Malien. Et j'espère que j'ai pu vous assurer un peu de ça cette soirée. Nous sommes des amis de vous. Nous travaillons avec vous sur le grand principe de souveraineté, de laïcité et des principes qui partagent les valeurs de tous les pays des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est une organisation mondiale qui a, et j'ai travaillé pour eux avec beaucoup de humilité, mais aussi avec beaucoup de fierté. Ils ne sont pas là pour des intérêts spécifiques. Bien sûr, il y a des membres du Conseil de sécurité, mais il y a beaucoup des autres aussi. Sur le MINUSMA, il y a un consensus international pour encourager le Mali de retourner à leur grande histoire.
Merci beaucoup, M. Kondelz. Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons tous décider de nos lendemains. C'est sur ces mots de l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell que nous nous quittons. Vous avez eu le droit à une émission spéciale du Grand Dialogue du Studio Tamani sur le mandat de l'aménagement. M. Kondelz, merci infiniment pour avoir accepté notre invitation.
Merci.
Je rappelle que vous avez répondu aux questions des auditeurs qui portaient exclusivement sur le mandat de l'aménagement. Moussoukoura Konaté était comme d'habitude à mes côtés pour animer ce Grand Dialogue. Merci, Moussoukoura.
Merci.
Je signale juste que ce débat était en direct sur nos 24 radios partenaires du Studio Tamani répertoriés aux quatre coins du Mali par l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. Je suis Pamoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré a réalisé ce débat et la touche finale était l'affaire de Petingera à la technique. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.